affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Puisque vous nous écoutez, c'est que vous êtes tout à fait en mesure de profiter des effets positifs des technologies numériques, dont l'une des promesses était précisément de faciliter l'accès à l'information et à la connaissance. Toutefois, comme vous l'imaginez bien, les outils numériques n'ont pas que cette face lumineuse, ils n'ont pas que des avantages, ils ont aussi, comme toute technologie, comme tout outil, des inconvénients. Ils sont porteurs de dangers liés à leur nature ou à leur usage. Or, comme ils sont de plus en plus omniprésents dans notre environnement, provoquant une multitude de révolutions, là il y a inflation, révolution informationnelle bien sûr, révolution industrielle, révolution pédagogique, révolution démocratique, et peut-être un jour révolution anthropologique. Vous l'avez compris, les outils numériques, et notamment ceux à base d'écran, suscitent des espoirs démesurés et des inquiétudes souvent exagérées. C'est à établir une juste appréhension de ceci que sera consacrée notre émission. Pour ce faire, nous n'allons, Dieu merci, pas nous avancer sur ce terrain riche en passion tout seul. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Jean-François Bach. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences et que vous avez présidé en 2013 un groupe académique de l'Académie des sciences qui était précisément consacré aux écrans et à l'enfant, et que beaucoup plus récemment, vous avez piloté cette fois un groupe interacadémique avec des experts issus de l'Académie des sciences, bien sûr, mais aussi de l'Académie de médecine et de l'Académie des technologies, pour rendre cette fois non pas un avis, mais un appel ainsi titré, l'enfant, l'adolescent, la famille et les écrans appellent à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques. Ma première question, monsieur, portera sur la différence des termes qui est certainement significative et nous dit quelque chose de ce travail. En 2013, c'était un avis et pas un rapport, et aujourd'hui, il s'agit d'un appel. Pourquoi donc ?
Oui, c'est une question importante. Bon, à l'époque, lors du premier travail que nous avions réalisé, nous avions la conscience que nous couvrions à peu près l'ensemble des questions, des problèmes de la littérature. Aujourd'hui, c'est presque impossible, parce que la littérature devient considérable. Le nombre d'expressions dans les médias est énorme, et dans tous les types de médias. Chacun donne son avis. Bon. Donc, au départ, c'était un avis, avec des données à la fois sociologiques, cognitives, informatique. Enfin, on avait vraiment réuni beaucoup d'éléments et nous pensions pouvoir donner un avis, disons, non pas exhaustif, mais relativement complet. Cette fois-ci, nous avons pensé que nous ne pouvions pas atteindre cet objectif pour les raisons que je viens d'évoquer. Et en plus, il se trouve, et cela va avec ce que je viens de dire, que de multiples commissions, groupes de travail ont été créés sur le sujet, et qui s'appuie sur des centaines de références bibliographiques. Nous ne voulions pas faire cela. Donc, nous voulions plutôt utiliser ce qui est la caractéristique des académies, c'est-à-dire de réunir des personnalités de différentes disciplines, indépendantes, ayant un certain recul, pour ne pas dire un recul certain et une compétence reconnue. Ce qui est un peu différent des groupes de travail qui sont en général constitués par des spécialistes connaissant bien leur sujet, mais parfois connaissant moins bien ce qui est autour de leur sujet ou un peu en dehors. Et la raison pour laquelle nous avons appelé, nous avons dénommé ce texte un appel, c'est que nous pensions effectivement qu'il fallait appelé, interpellé la population, les enseignants, les familles, pour leur faire part de notre sentiment sur ce sujet en pleine évolution. Alors, vigilance, parce que nous avons pensé qu'effectivement, comme vous disiez il y a un instant, il y a quand même des inquiétudes et qui sont peut-être sous-estimées par certaines personnes dans le public, et notamment chez les personnes, on y reviendra, en situation de vulnérabilité dans des environnements défavorisés. Donc il faut une vigilance. Mais raisonner, parce que cette vigilance ne doit pas conduire à un pessimisme exacerbé. Il y a beaucoup de bons côtés, bien sûr, dans l'exposition des enfants aux écrans, et il ne faut pas les négliger. Je dirais en une seule phrase, quiconque voudrait soustraire les écrans à un enfant entre 5 ans et 15 ans ferait une faute d'éducation majeure et qui lui serait vivement reproché, que de toute façon ne serait pas applicable.
De la même façon que l'exposer de façon exagérée serait également commettre une faute d'éducation importante, si j'ai bien compris.
Oui, c'est une question de mesure. Il faut être vigilant, les parents d'être vigilants, parce que s'ils ne suivent pas ce problème, c'est une faute, c'est une erreur, c'est une faute, les deux à la fois. Je pense qu'ils en sont de plus en plus conscients, mais il faut donc trouver le juste milieu, et le juste milieu n'est pas simple. Surtout, on y reviendra, pour les adolescents. C'est plus facile pour l'enfant de 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Ça va encore. Moi, je le dis souvent, c'est une phrase que j'ai déjà dite à plusieurs reprises. L'âge de grâce, c'est justement entre 8 ans et 13 ans. C'est l'âge où ils comprennent tout et où ils écoutent encore.
De ce point de vue-là, l'ère numérique n'a rien changé, car le fait que l'adolescence soit un moment problématique, à la fois pour les adolescents et pour les parents, c'est probablement de toute éternité. Donc ça, c'est rassurant, c'est une constante.
Oui.
Alors, le rapport est titré « Les écrans », ce pluriel a bien évidemment son importance. De quels écrans s'agit-il et faut-il distinguer entre les types d'écrans? Parce qu'après tout, l'écran, comme vous l'écrivez dans cet appel, ce n'est que l'interface. Alors de...
Oui, alors,
de quoi s'agit-il ?
Alors, d'abord, il y a un problème qui est simple à régler, c'est éliminer de cette discussion l'écran support d'une information. Alors, on évoquera peut-être des problèmes médicaux liés à l'exposition aux écrans, notamment pour la vision. Ça, c'est un problème très spécial, très spécifique, on peut en discuter tout à l'heure. Mais à part cela, l'écran, bien sûr, c'est un outil, c'est un véhicule, c'est un support, appelons ça comme on veut. Il est évident que lire un livre classique, conventionnel, ou lire un livre sur un écran, bon, finalement, c'est pas très différent. On peut même aller un peu plus loin si on prend les livres. Il y a les livres audio. Bon, ben, écouter un livre audio ou lire un livre, est-ce que c'est vraiment différent? On peut en discuter d'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse, mais finalement, c'est quand même pas différent. Hein. Sur le fond, c'est pas vraiment différent. Donc il faut éliminer la discussion, c'est l'utilisation des écrans comme simplement support d'une information écrite ou lue. C'est pas le vrai problème. Alors les écrans dont nous parlons, ce sont les écrans interactifs surtout. Alors les écrans interactifs, c'est-à-dire, on les connaît tous, il y a d'abord la télévision, quand même pas. Alors elle n'est pas interactive, la télévision elle est passive, c'est une exposition passive. Mais enfin, elle a beaucoup moins de place qu'avant, mais elle en a encore une, notamment chez les petits. Après, il y a l'ordinateur, qui s'est beaucoup démocratisé. On peut acheter un ordinateur pour un prix relativement peu élevé, ce qui n'était pas possible autrefois. Après, il y a les tablettes. Et là, de nouveau, vous avez différents types de tablettes. Puis après, il y a les téléphones portables, les smartphones, qui donnent encore un élan nouveau à tout cela. Alors, finalement, quand on regarde les jeunes, Bon, les plus jeunes, c'est un peu tout. C'est pas tellement l'ordinateur, ça va être les tablettes ou le smartphone, éventuellement le smartphone des parents. Et puis encore la télévision. L'adolescent, dont on parlera bien sûr, c'est beaucoup le smartphone, beaucoup. Bon, enfin, smartphone ou tablette ou ordinateur, c'est pas très différent. Il y a une toute petite différence d'ailleurs, le problème de vision n'est pas sans importance, c'est que le smartphone, on le regarde de plus près. Alors que la tablette, on regarde un peu plus de distance. Et du point de vue médical, ce n'est pas sans importance. Puis le smartphone, on l'utilise n'importe où, partout. Et pour certains adolescents, je dirais presque en permanence. Alors que la tablette, on ne l'a pas toujours sous la main.
Oui, le smartphone a une petite tendance à devenir une extension de notre propre corps. Voire de notre cerveau, c'est ça ?
Oui, absolument. D'ailleurs, chez les adolescents, c'est une des remarques qu'on peut faire, qu'on peut regretter, parce que c'est vrai que ça devient totalement excessif chez certains adolescents, surtout. C'est beaucoup moins vrai chez l'enfant. J'appelle l'enfant de 5 à 12, 13. Hein. Bon, l'adolescent, parfois, on peut dire encore un enfant, même s'il revendique d'être adulte assez vite. Mais pour l'adolescent, le smartphone, il fait partie de sa vie continue. Il est tout le temps avec son smartphone. D'ailleurs, on peut se poser la question dans quelle mesure ça n'entraîne pas, ça l'empêche de participer à tout ce qu'il devrait faire. Mais c'est comme ça, on le voit tous autour de nous, on le voit en famille, on le voit dans le métro, on le voit partout. Ils sont tous sur leur smartphone. Bon, mais ça fait partie c'est intégré dans la vie de chacun, effectivement, et particulièrement des jeunes.
Alors, lorsque je vous écoute, apparaît une première distinction qui n'est pas entre les outils, mais une distinction déjà d'usage, et en l'occurrence centrée sur la durée. Vous parliez des adolescents qui l'emportent partout. Bon, là, c'est lié à cet outil. L'outil permet d'être connecté en permanence, donc il semblerait que ça participe d'une explosion de la durée d'exposition à ces différents écrans. Vous insistez beaucoup tout au long de l'appel sur la nécessité d'éviter une durée d'exposition trop longue qui pourrait être un signe d'addiction. Ça y est, j'ai prononcé le terme.
On reviendra sur ce terme d'addiction parce que c'est un sujet compliqué. Voilà. Non, oui, bien sûr, la durée. Alors, il y a différents types de durée. Vous avez l'adolescent qui va passer 2 heures d'affilée devant une tablette ou à faire des jeux vidéo, etc. Bon, ça, c'est une chose. Puis il y a l'utilisation courante, qui est l'utilisation discontinue. C'est-à-dire que l'adolescent, sauf quand il est dans un contexte où il ne peut pas l'utiliser, son smartphone, ça arrive quand il écoute un cours à la faculté ou au lycée, il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Peut-être qu'il Il devrait pas. Disons, dans les lycées, on interdit le téléphone portable. Je ne sais pas si c'est complètement appliqué, mais c'est une bonne mesure. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la durée, mais pas intermittence. Puis il y a la durée prolongée, qui est encore autre chose. Donc là, c'est vrai que c'est difficile à chiffrer, parce que justement, c'est souvent intermittent. Mais c'est vrai que c'est un des éléments très importants et qui il faut essayer de réguler. Alors après, c'est tout le problème de savoir comment on peut le faire.
Mais... Oui, comment, et de connaître ce niveau. C'est-à-dire que s'il est nécessaire de réguler, c'est-à-dire qu'on a quand même une petite idée, j'imagine, de la durée maximale souhaitable selon les âges de la vie, non ?
Alors, je pense qu'il faut ici introduire une notion absolument fondamentale, c'est que les problèmes posés par l'exposition des enfants aux écrans dépend beaucoup de l'âge. Pour faire simple, nous avons distingué 3 tranches d'âge. Alors, c'est toujours artificiel, 3, ça peut être 4. Mais enfin, quand même, il y en a 3 principales. Il y a le très jeune enfant. Très jeune enfant avant 3 ans. Et parfois, beaucoup avant 3 ans. Hein. Ça peut être des enfants de 6 mois ou 1 an. Et après, il y a le jeune enfant ou l'enfant, entre 3 ans et 12, 13 ans. Puis après, il y a l'adolescent. Avec, bien sûr, des frontières un peu floues. Alors, avant 3 ans, là, nous avons été catégoriques. Et c'était une évolution par rapport au rapport précédent, parce que nous n'avions, quand on avait notre avis il y a 7 ans, on n'avait pas le recul. Maintenant, on a le recul et on a été alerté par de nombreux psychiatres, psychologues, des gens qui s'intéressent, qui suivent ces sujets. Avant 3 ans, il y a vraiment un risque. Alors, comment ça se passe ? On le sait tous. Ben, les parents, pour faire plaisir à l'enfant, au bébé, ou aussi pour se faciliter la vie, quand un bébé est un peu, pleure un peu, bon, demande beaucoup d'attention, les parents le mettent devant un écran, en général là, c'est des tablettes, et puis ils ont la paix. Bon, c'est pas très satisfaisant en soi déjà, bon, mais là on a appris à connaître les dérives, les inconvénients d'une surexposition. Alors, j'ai été, comme toutes les personnes du groupe de travail, étonné par quand on a appris que certains parents exposaient leur bébé, ce sont des bébés, très jeunes enfants, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour à une tablette. Ou à, parfois à la télévision, mais c'est surtout une tablette. Et alors là, les effets délétères sont importants parce qu'on sait que un enfant de cet âge-là, il est encore en développement cérébral et on sait, il a été bien montré que ça pouvait interférer avec ce développement du point de vue affectif, du point de vue même intellectuel. Donc il faut faire très attention. Alors il y a même des psychiatres qui ont été jusqu'à dire que ça peut créer des états para-autistiques. Mais l'autisme, c'est quelque chose de compliqué. Et il y a un argument très fort qu'il faut rappeler, c'est que même dans ces situations extrêmes, où il y a vraiment des effets de type, disons, parapsychiatrique, lorsqu'on arrête l'exposition aux écrans, tout s'arrête. Donc c'est quelque chose qui est réversible, ce qui n'est pas le cas malheureusement de l'autisme dans la plupart des cas. En tout cas, là...
Donc on peut rattraper le tambour du slave, même si on arrête postérieurement l'âge de 3 ans.
Voilà, c'est pas irréversible. C'est quand on arrête à... Voilà, quand on arrête à... Mais les problèmes sont compliqués. Il y a un aspect très spécial sur lequel nos collègues pédopsychiatres, vous en avez plusieurs dans le groupe, ont beaucoup insisté. Il y a un effet indirect, pervers des écrans sur les très jeunes enfants. C'est la durée, le temps d'utilisation du smartphone par les parents, par la mère. Parce que lorsque la mère passe un temps fou, comme beaucoup de jeunes femmes, devant leur écran, bah c'est du temps qui est soustrait, qui n'est pas donné à l'interaction qu'elle devrait avoir ou qui est demandée par l'enfant.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas priver l'enfant d'interaction en le mettant devant un écran, mais si parallèlement il n'est pas devant un écran, mais que les parents et tous les membres de son environnement immédiat sont eux devant un écran, on aboutit au même résultat.
C'est un peu la même chose. Alors, sauf que lorsque l'exposition directe du très jeune enfant à l'écran, il est un peu fasciné, la lumière, le son, il est scotché sur l'écran, ce qui parle tout à fait la même chose que lorsqu'il voit sa mère qui ne le regarde plus, qui téléphone ou qui envoie des SMS ou passe son temps à faire ça. Donc là, en tout cas, c'est une période très sensible. Et notre conviction est qu'il faut tout faire pour limiter. Alors interdire, on n'aime pas interdire parce que ce n'est pas très constructif. Mais en tout cas, il faut éviter toute exposition des très jeunes enfants aux écrans. Et quand c'est fait, ça doit être fait en vraiment avec un accompagnement absolu, dans des durées très limitées. Mais le mieux, le plus simple, c'est effectivement de conseiller aux parents de ne pas exposer les très jeunes enfants aux écrans. Et puis s'ils le font, ça peut être simplement de façon très...
Oui, on peut regarder quelques photos de famille sur une
tablette
ensemble.
Oui, oui.
Et aussitôt que c'est terminé, s'emparer de l'appareil. Donc on n'interdit pas, mais on évite catégoriquement, quoi.
Oui, parce qu'on voit des choses absolument étonnantes. Moi, j'ai vu un jeune enfant qui avait 1 an et demi, à qui on montre une photo papier ordinaire, qui trouvait un peu petite. Il a essayé de l'agrandir avec les deux doigts, comme on fait sur un smartphone. Alors, il perd la notion même du réel, vous voyez.
Ça ouvre quand même des perspectives un petit peu inquiétantes. J'ai cru lire, non, je ne sais plus si c'est dans votre appel ou sur d'autres supports, que le développement de l'appréhension spatio-temporelle pouvait être également affecté par une exposition trop longue à cet âge-là. C'est le cas ?
Oui, oui, c'est vrai que ça peut modifier beaucoup de choses. C'est un âge extrêmement sensible, encore une fois, vous comprenez. C'est un âge où tout se met en place et c'est vrai que ça peut avoir, qu'on puisse dire jusqu'où ça peut avoir des conséquences. C'est difficile à dire, puis moi je ne suis pas un pédopsychiatre, c'est à eux de le dire, mais enfin. Voilà, à cet âge-là, pour revenir à notre tranche d'âge, moins de 3 ans, 5 ans très particulier. Alors après, vous avez l'enfant le jeune enfant qui va à l'école, ou après il va au collège, puis bon. Là, c'est différent. C'est différent parce que D'abord, quand on regarde un peu ce qui se passe, il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Ils ont, à part des cas spéciaux, où vraiment ils passent beaucoup de temps, dans l'ensemble, ça reste raisonnable, surtout si les parents font un peu attention. L'enfant va suivre ce qu'on lui demande. Mais il faut que les parents... Alors c'est là où il y a quand même une difficulté. Il faut que les parents se donnent une certaine discipline. C'est-à-dire créer une sorte de rituel qui fait que les enfants ne doivent pas utiliser cet écran au-delà d'une certaine heure, au-delà d'un certain temps, etc. Alors là, c'est possible de le faire. Bon, et c'est même, encore une fois, plutôt utile qu'ils apprennent à se servir, apprennent à interagir avec les écrans, s'initient à l'informatique. Il faut être prudent, mais enfin, là, les problèmes ne sont pas les plus sérieux, même s'il y a des cas particuliers où il y a des dérives incontestables. Le problème est plus, d'ailleurs, à ce niveau-là, des conséquences sur le niveau d'attention, une perte de concentration et puis de manque de sommeil. Si des enfants de 5, 6, 7, 10 ans passent trop de temps le soir en particulier, bon, ils dorment moins. Et puis un enfant qui ne dort pas assez, qui ne dort pas assez 8, 9 heures par nuit, va en pâtir. Il travaillera moins bien à l'école le lendemain. Et donc là, il y a une difficulté. Alors, nous avions un spécialiste du sommeil dans notre groupe, ou plus généralement des rythmes chronobiologiques, le professeur Twitou, qui nous a bien expliqué que c'était un problème très important et que, par exemple, moi je cite ça parce qu'on l'entend souvent, le fait de pouvoir dormir pendant le week-end, le samedi et le dimanche, ça ne rattrape pas le temps, le sommeil perdu pendant la semaine. Ça aggrave plutôt parce que ça accentue la désynchronisation de l'enfant par rapport au sommeil et à sa vie quotidienne. Donc là, il y a des conséquences médicales. Quand il passe trop de temps aussi, il y a même l'obésité. Il y a les enfants qui passent des temps fous devant leurs écrans, ils ont moins d'activité physique et s'entraînent un risque accru d'obésité. Donc, bon, c'est à peu près contrôlable si on fait attention. Et c'est là où nous avons fait des recommandations quand même assez strictes de temps, surtout de temps passé, l'heure à laquelle l'exposition se fait, et puis avoir un regard. On peut le faire encore à cet âge-là sur ce qu'ils font avec leurs écrans. On ne peut pas les laisser faire n'importe quoi, parce qu'après, on tombe dans d'autres choses, dans d'autres problèmes. Des enfants de 10 ans, à l'école, en 6e, ou après, au lycée, ou au collège, bon, il y a l'utilisation pour des harcèlements. On a tous entendu parler de cas de harcèlement à l'école par des réseaux Internet propres à la classe. C'est des choses qui existent. La pornographie. C'est vrai qu'exposer des enfants de 8 ans, 10 ans à des images pornographiques un peu brutales, c'est pas une bonne préparation à leur vie affective. C'est sûr, ça leur donne des... Bon, c'est tout à fait artificiel. Et ça existe et c'est très facile à faire. Donc il y a toute une série d'effets pervers dont il faut avoir la connaissance et que les parents doivent connaître et appliquer. Et ça, on l'a pas mal décrit. Je crois que c'est important et on est à un consensus sur ce sujet.
À cet âge-là, c'est-à-dire de 4 à 12 ans, il y a un autre outil enfin, qui vient spontanément à l'esprit, c'est celui des jeux vidéo. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu plus ancien, donc on a certainement plus de recul sur ses effets. On a tantôt dit que les jeux vidéo favorisaient la violence, tantôt une forme de déréalisation. Qu'en est-il ?
Alors, les jeux vidéo... Alors nous avions dans le groupe un grand spécialiste qui est un psychiatre, qui est Serge Tisseron, qui est un homme remarquable et qui connaît très bien tous les problèmes de jeux vidéo, en particulier chez l'enfant. Alors il y a différentes catégories de jeux vidéo, évidemment. Alors, les jeux vidéo progressent très vite. C'est un marché considérable, comme vous le savez, et donc il y a beaucoup de choses qui sont éventuellement assez différentes. Le premier problème, c'est effectivement, vous l'avez cité, c'est la violence. Et on a entendu parler au cours de ces dernières années, même de cette dernière année, des conséquences de l'utilisation de jeux de vidéo violents dans le droit commun. Ça peut vraiment aller assez loin. Il y a même des jeux vidéo qui sont fondés sur... des pratiques qui ne sont pas très loin des jeux d'argent. et qui vont même jusqu'au jeu d'argent. En théorie, c'est pas possible parce que la loi l'interdit. Mais maintenant, nous avons entendu des spécialistes des jeux vidéo, des fabricants et des gens qui étudient cela, qui nous ont bien indiqué comment, là c'est surtout vrai pour les adolescents, pas pour les jeunes, et ils peuvent être exposés à des jeux vidéo qui les incitent à des pratiques qui ne sont pas très loin de celles des jeux d'argent, des casinos. Alors on sait que le jeu de casino est une source d'addiction très importante. Donc on n'en est pas tout à fait là. Mais c'est vrai que ces jeux d'argent ou l'équivalent, où les gens sont impliqués avec toutes les séries de possibilités qui ne sont pas forcément l'argent seulement, mais oui, également la peur de manquer un événement, etc. Ça crée une dépendance qui est assez ennuyeuse.
Oui, je crois qu'il faut le souligner. Vous le dites dans l'appel, un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre de fabricants de ces jeux, et notamment des jeux en ligne qui, semble-t-il, se différencient quand même pas mal des autres,
oui.
Même si, semble-t-il, les produits mix sont de plus en plus nombreux, font appel à des spécialistes neurocognitifs, psychologues et autres, de façon à piéger les utilisateurs, en l'occurrence des enfants, de façon à maximiser leur présence en ligne, et à éviter qu'ils ne mettent fin au jeu, qu'ils ne le quittent, les faire revenir si toutefois à heure fixe ou à rendez-vous déterminé, etc., etc., etc. C'est-à-dire en fait à mettre en place de façon volontaire une forme d'addiction, même si le terme ne doit pas être pris dans son acception scientifique.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est un... Alors, nous avons encouragé une surveillance, on peut le dire. Alors, on n'aime pas ce terme de nouveau, mais il faut quand même surveiller ce qui se passe. On ne peut pas laisser faire les fabricants de jeux vidéo complètement libres. On ne peut pas les laisser faire. Il faut regarder ce qu'ils font, leur demander d'indiquer pas seulement le contenu, mais l'esprit des jeux qu'ils proposent. Et puis, les parents, de nouveau, doivent faire l'effort. C'est pas toujours facile de regarder quels sont ces jeux vidéo. Bon, c'est facile à dire, mais pas facile à faire, de surveiller. Mais il est évident que... Enfin, on peut se rendre compte quand même, quand on voit l'enfant qui est absorbé par ces jeux vidéo pendant des heures, on est quand même en devoir de se poser des questions.
Est-ce que nous avons fait le tour sur les spécificités de cet âge-là, c'est-à-dire jusqu'à la préadolescence, ou y a-t-il encore...
Non, je pense qu'à la préadolescence, non, je crois qu'on a à peu près dit ce qu'il fallait dire. Mais peut-être qu'on pourrait déjà dire quelques mots sur l'addiction, parce que...
Oui, le terme est revenu trop souvent,
voilà,
donc maintenant il faut en parler.
On a déjà prononcé 3-4 fois. Bon, l'addiction, on sait tous ce que c'est. C'est une dépendance qui peut être... soit un produit toxique, on les connaît tous, la drogue, l'alcool, le tabac, soit une dépendance comportementale. Et pour l'instant, c'était surtout les jeux de casino. C'est assez curieux, hein, parce qu'il y a d'autres dépendances comportementales. Il y a les achats, des achats compulsifs. Il y a la nourriture. On tombe dans des... C'est pas vraiment la boulimie, c'est autre chose, mais la nourriture, etc. Le sexe, bon, on connaît ce genre de choses. Donc il y a des dépendances comportementales. Alors, la question est... Mais qui ne sont pas des addictions. Alors, la différence principale entre l'addiction et la dépendance, qui n'est pas une addiction, qui est surtout une dépendance comportementale, c'est que la dépendance, l'addiction... Et là, il y a des bases neurobiologiques, c'est de la science, c'est pas... Vous voyez, il y a des bases tout à fait bien établies du point de vue expérimental même. Alors, la première chose dans l'addiction, la vraie addiction, c'est que il y a une... lorsqu'on arrête, et c'est la chose principale, lorsqu'on arrête, eh bien, il y a un mal-être profond avec éventuellement des symptômes. D'angoisse, même des troubles digestifs majeurs ou des choses, toute une série de choses. Un mal-être absolu, et on connaît bien ça, on connaît les difficultés du sevrage et toutes les conséquences que ça peut avoir. Puis il y a une autre chose qui est intéressante, qui est un peu moins connue, c'est que les vraies addictions, on arrive éventuellement à faire sortir de l'addiction les sujets qui sont justement soumis à ce problème, mais il ne faut absolument pas qu'ils y retouchent. Et on sait bien que, par exemple, les toxicomanes ou les alcooliques, quand on arrive à les faire sortir de leur addiction, il ne faut pas qu'ils y retournent.
Oui, un seul verre suffit à faire replonger.
Voilà. Alors que là, ce n'est pas le cas pour les dépendances comportementales. On arrive à les sortir de leur dépendance, mais bon, s'ils y retournent un peu, ce n'est pas très grave. Vous voyez, dans la mesure où ça reste raisonnable. Donc, il y a des différences. Alors, à partir de cela, nous sommes posés la question, et nous avions vraiment tout un groupe de psychiatres éminents dans notre cercle, donc c'était assez facile, ils connaissaient très bien le sujet. Bien, la réponse a été que, globalement, les dépendances que j'appellerais ordinaires, les plus fréquentes, n'étaient pas des addictions. Mais que lorsqu'on arrivait dans certaines situations, notamment les jeux vidéo dont je parlais, les jeux vidéo qui touchent aux jeux d'argent. Alors là, on est dans une situation qui est très apparentée à l'addiction. Alors maintenant, est-ce que ça rentre dans l'addiction ou est-ce que ça n'en est pas? Même nos collègues psychiatres en ont beaucoup discuté. Moi, je n'ai pas la position pour laisser arbitrer la discussion. Mais on n'en est pas loin. Donc, mais dans les cas ordinaires, où simplement il y a trop d'heures passées, etc., bon, ce n'est pas vraiment de l'addiction. Donc le terme d'addiction ne doit pas être utilisé n'importe comment, parce qu'il est, il correspond à une situation médicale relativement lourde et qui ne doivent pas être, donc faut pas généraliser et utiliser ce terme trop facilement.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut plus utiliser, comme je l'ai fait trop souvent déjà dans cette émission, le terme d'addiction, mais il ne faut pas se rassurer trop vite, parce qu'une dépendance grave, c'est quand même quelque chose de grave.
Voilà. Alors, on peut arriver à des situations... Alors, et quant au le jeune enfant, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, l'enfant de moins de 3 ans, lui, c'est pas vraiment de l'addiction, ou encore, dans certains cas, c'est... Mais non, c'est pas de l'addiction, parce qu'on arrête, et puis ça se passe pas si mal. Donc là, on n'est pas dans l'addiction. Mais on a d'autres problèmes psychologiques, pour ne pas dire psychiatriques, éventuels, mais c'est pas vraiment... C'est pas pareil. Donc voilà.
Mais on peut résoudre plus facilement une dépendance grave et retrouver une vie normale, mais si on la laisse se poursuivre, on aura les mêmes effets qu'une addiction.
Alors voilà, à long terme.
Donc c'est pas une raison pour pas agir
parce que
c'est pas grave, c'est pas une addiction.
Parce que finalement, le fait que quand on regarde les conséquences de la mauvaise utilisation des écrans, même si c'est pas des addictions, parce que ce sont des cas d'utilisation forte, mais pas exagérée ou pas totalement exagérée, les conséquences sont là. On en a déjà évoqué plusieurs, et on arrive à l'adolescence, c'est le fait qu'ils passent trop de temps au détriment d'autres choses. Et ils n'ont plus le temps de lire, et ils n'ont plus le temps d'écouter de la musique. Je dirais même, ils n'ont plus le temps de s'ennuyer. Moi, je fais partie de...
Oui, insistons un peu sur ce point.
Je pense qu'il est important qu'un enfant ait la possibilité d'être seul avec lui-même de temps en temps et de réfléchir un peu, de se poser. Je ne dirais pas de se reposer, mais de se poser. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, l'utilisation exagérée des écrans ne laisse plus ce temps. Alors, il peut y avoir d'autres choses. Pourtant, les parents demandent à leurs enfants d'avoir des activités multiples, de sport, d'art, etc. C'est bien, mais si on rajoute les écrans, ils n'ont plus le temps d'être avec eux-mêmes. Ils passent leur temps. Il y a une exacerbation de la vie sociale. Il faut toujours qu'ils soient en relation avec tous leurs copains. On se demande parfois pourquoi faire, qu'est-ce qu'ils se disent en s'envoyant des SMS par dizaines, quand c'est pas par plus que ça par jour. Comprenez, il faut garder une certaine raison, et c'est vrai que là, on a des conséquences à long terme et qui seront d'autant plus importantes que l'exposition a été exagérée pendant plus d'années. Et puis tous ces problèmes médicaux, je crois beaucoup à la perte de la faculté d'attention, de disponibilité qui est entraînée par cela, même si c'est pas individuellement toujours très grave. Mais finalement, ça devient un inconvénient sérieux. Et alors, il y a cet aspect auquel je vous allusion tout à l'heure, qui me semble très important, et on a beaucoup insisté dans notre appel sur ce sujet. Nous avions même eu la possibilité d'avoir une collaboration d'un anthropologue qui était spécialisé dans ces problèmes de surtout des jeux vidéo, d'exposition aux écrans. Et il nous a bien expliqué, puis après on a eu d'autres témoignages dans le même sens, que tous ces problèmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qui sont liés au fait que les parents ne suivent pas assez ce qui se passe et laissent trop de liberté aux enfants dans l'utilisation des écrans, tous ces problèmes sont beaucoup plus fréquents dans les populations vulnérables. Alors la vulnérabilité, c'est un sujet en soi seul qui est considérable. Il y a deux types de vulnérabilité assez différentes. Il y a la vulnérabilité sociale, Bon, c'est typiquement des familles où il n'y a pas la possibilité de suivre les enfants de très près, les milieux défavorisés. Enfin, je ne veux pas... chacun voit bien ce à quoi je pense. Et puis, il y a une autre vulnérabilité qui est une vulnérabilité individuelle, propre à l'individu. C'est une certaine, appelons ça une fragilité psychologique, ou pour ne pas dire plus. Donc, et il est évident que la question se pose à ce moment-là, elle a été très largement soulevée par plusieurs psychiatres du groupe, c'est que lorsqu'il y a des problèmes parapsychiatriques, je dis parapsychiatrique, c'est un terme qui n'est pas très bon, enfin disons qui relève quand même de problèmes médicaux, psychologiques et peut-être psychiatriques. Les questions se posent de savoir, est-ce que c'est l'utilisation des écrans qui a provoqué cet état, ou est-ce qu'il y a une fragilité préexistante du point de vue psychologique qui fait que l'exposition aux écrans a des conséquences qui ne seraient pas, qu'on n'aurait pas observées chez les enfants qui n'avaient pas cette fragilité. Vous voyez, alors, et ça, c'est important parce que ça débouche sur quelque chose de très précis. Ben, il faut réfléchir particulièrement à protéger ces enfants vulnérables. Et là, sur qui on va retomber ? Ben, sur les enseignants. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur la nécessité, que les enseignants surveillent dans la mesure du possible ce qui se passe pour cette exposition aux écrans. Alors, il ne faut pas confondre les choses. Les enseignants utilisent ces écrans du point de vue pédagogique.
Oui, mais avec des projets qui sont...
totalement différents.
Chacun différent selon l'enseignant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'un certain nombre d'enseignants qui souhaitaient résister à l'arrivée de ces outils de façon massive, j'entends, hein, je ne parle pas d'un rétroprojecteur sous forme numérique, massif dans les écoles. Moi, autour de chez moi, j'ai un certain nombre d'écoles qui affichent fièrement, de lycées en l'occurrence, fièrement des panneaux du conseil régional, puisque c'est le conseil régional qui finance les lycées en France, vers le lycée 100% numérique. Alors 100% numérique, je crois qu'il devrait faire appel à une autre entreprise de communication, parce que si c'est 100% numérique, ça veut dire que la vie elle-même va quitter, et les élèves aussi, la vie de ce lycée. Mais ça montre quand même la dynamique un peu automatique que l'on a à accepter ou introduire ces outils dans les écoles. Je dois dire que ce slogan lui-même, moi, m'a terrifié. 100% numérique,
oui, c'est
terrifiant. Alors aujourd'hui, pour retrouver la raison et la mesure qui doit présider à cette émission, qu'est-ce qui est envisagé de façon générale comme
alors, ce que nous avons...
le recours du numérique dans les écoles, les lycées, les collèges?
Alors, il faut, bien sûr, l'introduction du numérique dans la pédagogie a été... quelque chose de très important, donc c'est évident, à différents niveaux, au point de vue source d'information, apprendre à un enfant à rechercher, à constituer un dossier sur Internet, c'est quelque chose de très utile. Bon, il ne faut pas que ça se limite à faire du copier-coller de Wikipédia, évidemment, ça c'est la facilité dans laquelle tombent malheureusement certains enfants. Mais en oubliant ce qui n'est pas souhaitable, comme ce que tu viens d'évoquer, il y a beaucoup pour un enfant à apprendre à interagir avec cet écran, se renseigner, s'informer. C'est très utile. Il y a même d'autres formes de pédagogie très importantes. Actuellement, on se dirige de plus en plus vers ce qu'on appelle différents termes, les MOOC ou d'autres choses, peu importe. C'est messages vidéo pédagogiques de 5 minutes, 10 minutes. C'est formidable. Moi, je veux dire, j'apprends personnellement ce qu'on appelle les tutoriaux aussi. Mais c'est très remarquable. On apprend. C'est beaucoup plus agréable parfois que de lire quelque chose. Donc là, parce que ça, c'est un côté ludique qui fait que ça permet de passer des messages qui sont difficiles à faire passer de façon plus magistrale, comme on fait dans certains enseignements. Donc il y a un côté très positif. Il y en a très nombreux. Maintenant, il y a les excès, parce que évidemment, quand on introduit le numérique dans les écoles, dans les collèges, bon, c'est vrai qu'on crée de toutes pièces la situation que l'on craint lorsqu'elle devient excessive. Donc, ce que nous avons, pour revenir à notre appel, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des recommandations spécifiques pour les enseignants, pour insister sur ce à quoi ils doivent veiller. J'ai parlé de la vulnérabilité tout à l'heure, mais de façon générale, il faut que les enseignants participent à cette régulation qui doit être avant tout une autorégulation par les enfants, mais régulation conduite par la famille et par les enseignants. Et les deux doivent travailler ensemble, évidemment.
C'est l'un des points qui frappent en lisant l'appel, c'est qu'il y a un appel à poursuivre la recherche et la réflexion sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'en est qu'au début, finalement, de la réflexion, non ?
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que c'est un des sujets... D'abord, vous savez, l'informatique... ce qui est remarquable, c'est que les enfants, même relativement jeunes, ont une dextérité d'utilisation de l'informatique. Ce qu'on dit parfois, c'est un commentaire qui est totalement exagéré, mais parfois c'est une matière où l'enfant sait parfois plus que l'enseignant, au moins dans la manipulation pratique. On voit l'agilité avec laquelle ils vont rechercher tel document sur Internet ou transmettre tel document à quelqu'un d'autre. C'était fantastique. Bon, donc là il y a quelque chose. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire maintenant examiner ça de façon scientifique. Alors, vous savez, l'Académie des sciences se pose souvent la question de qu'est-ce qui est scientifique et qui ne l'est pas. En fait, ce qui est la science doit intervenir en apportant une façon de raisonner qui est rationnelle et qui est, fondée sur des faits. C'est un grand problème que nous avons dans notre société, et ça vaut pour beaucoup d'autres sujets que on n'évoque pas aujourd'hui, c'est la confrontation des faits scientifiques et des convictions. Alors les convictions, c'est bien, nous avons tous des convictions, mais il ne faut pas les opposer aux faits scientifiques, parce qu'on ne peut pas avancer. Donc la science doit se fonder sur, typiquement dans le cas particulier qui nous intéresse, sur l'analyse d'un grand nombre de sujets étudiés de façon, bien organisée, sur des cohortes de suivi pendant plusieurs années. Donc ça va prendre du temps. Et là, il est évident qu'il y a un effort de recherche très important. Et puis il y a d'autres aspects qui doivent être l'objet de recherche. C'est justement quels sont les mécanismes cognitifs, par quel biais, comment le cerveau devient-il dépendant par rapport à ces nouveaux outils. C'est pas un sujet simple et qui va demander beaucoup, beaucoup de réflexion. Alors, puis il y a un autre sujet que je voudrais évoquer quand même, parce que j'ai parlé de la vision tout à l'heure. Certains s'inquiètent des effets de l'exposition aux écrans sur la vision. Alors, il y a deux sujets, là, qui sont assez différents, complètement différents, d'ailleurs. Le premier, c'est est-ce que l'exposition à la lumière, en particulier...
La fameuse lumière bleue.
Alors, la lumière bleue, particulièrement dans le spectre bleu, est-ce que ça a des inconvénients? Alors, la réponse est oui. C'est-à-dire que ça rompt le cycle normal chronobiologique. Autrement dit, si, surtout le soir. Parce que la lumière, il y en a beaucoup. Il n'y a pas les écrans, la lumière des écrans, finalement, par rapport au soleil, par rapport à beaucoup de choses, ce n'est pas des intensités considérables. Mais la lumière bleue, qui est délivrée le soir, en fin d'après-midi ou dans la soirée, elle a des inconvénients parce qu'elle va empêcher l'endormissement, elle va modifier et altérer le cycle normal du sommeil. Et ça, c'est ennuyeux parce que ça va contribuer, au-delà même du temps passé devant les écrans, ça va encore prendre du temps sur le sommeil. Et donc, il faut faire attention. Alors, certains ont dit, peut-être qu'on pourrait utiliser des parades, des logiciels sur les écrans d'ordinateur ou des lunettes spéciales qui servent d'écran partiel à cela. Bon, ce n'est pas prouvé que ça soit efficace. Nous avons consulté des spécialistes du sujet qui nous ont dit que ce n'était pas évident qu'on pouvait se protéger contre ça. Bon, mais là, c'est vraiment un effet très précis, l'endormissement et la qualité du sommeil. Et tout ça est lié d'ailleurs à une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est une hormone, hormone qui agit physiologiquement. Chaque soir, quand nous nous endormons, nous sommes aidés pour l'endormissement par la montée du taux de cette hormone en fin de journée. Donc là, c'est un premier sujet. Puis il y a un autre sujet qui n'a rien à voir, et la question se pose très simplement. Ainsi, est-ce que l'exposition à des écrans peut prolonger, bien sûr, peut avoir un effet toxique, direct, délétère sur la rétine. Et parce qu'il y a eu des rumeurs très alarmantes en disant ça va peut-être accélérer la survenue de la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une maladie plus en plus fréquente, ne serait-ce parce que les gens vivent plus longtemps. Alors là, on ne sait pas du tout. Ça a été dit... C'est pas prouvé. Et de nouveau, les spécialistes que nous avons consultés, on en a consulté plusieurs, sont très prudents. Il faut être conscient du problème. Pour l'instant, il ne faut pas s'alarmer plus que cela. Il n'y a pas de preuve qu'il y ait un effet toxique direct. Il y a des preuves chez l'animal, mais exposé dans des conditions très fortes, très au-delà de ce qui se passe, disons, chez les enfants et les adolescents.
Alors, mon ophtalmo, dont je ne dirai pas le nom, lui m'a dit qu'il sentait une rupture depuis qu'il y avait les smartphones, parce que ça, pour une raison très très simple, c'est que ça se regarde de beaucoup plus près, et avec des caractères beaucoup plus petits, tant et si bien qu'il y avait une fatigue visuelle.
Ah oui, alors ça c'est sûr.
C'est juste pour donner un conseil pratique, c'est-à-dire que l'écran placé loin, ça va très bien.
Ah oui, non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai que l'écran, c'est vrai que le smartphone qui est tout près des yeux fatigue plus. Alors, la fatigue visuelle, c'est une chose qui est réel et qui dont on doit qu'il faut savoir. Vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, vous savez, même des personnes qui sont toute la journée devant un écran pour des raisons professionnelles peuvent avoir des fatigues visuelles, peuvent aussi avoir des problèmes de posture, mal au dos parce que bon, on est assis, on bouge pas. Donc ça, c'est des problèmes secondaires mais qui existent. Et c'est vrai que le smartphone a sa particularité par rapport aux tablettes et encore plus aux écrans d'ordinateur.
Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait non pas le tour de cette question qui est très très vaste et dynamique, tant et si bien que j'espère qu'on pourra s'attendre à une mise à jour prochaine par votre groupe de travail ou un suivant de façon à prendre en compte l'évolution des connaissances. Les connaissances ne cessent d'évoluer sur tous les sujets, mais pour ce qui s'agit de technologies très récentes, par nature, elles sont appelées à évoluer. Et moi, ce que j'ai ressenti en lisant l'appel, finalement, c'est un appel à des vertus, alors elles pas du tout neuves, mais très anciennes, que sont la prudence, la tempérance et le bon sens. Toutefois, j'invite l'ensemble de nos auditeurs à se renseigner sur ces questions cruciales, notamment les parents, puisqu'on fait beaucoup appel à eux dans cet appel, de façon à avoir une connaissance un peu plus approfondie du sujet. Ainsi, ils sauront ce que l'on sait déjà et aussi ce que l'on ne sait pas encore sur le sujet. Merci beaucoup Jean-François Bach.
Merci. Thank you.